Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette 57e édition du 33-45. Mon nom est Pierre-Luc Delisle et si c'est la première fois que vous écoutez, le 33-45 est un podcast dans lequel on fait jouer de la musique de ma collection, de vinyle particulièrement, regroupée sur une thématique qui est différente à chaque semaine. Et cette semaine, la thématique va être les Invincibles. Et sans plus attendre, on va écouter le thème des Invincibles. C'était le thème des Invincibles, une chanson interprétée par Kim Bingham, qui a signé beaucoup la trame originale des Invincibles, série télévisée dans laquelle on entendait beaucoup de chansons des années 70-80, parfois en version originale, mais la plupart du temps interprétée par elle. Et ça faisait en sorte que il y avait une espèce de signature musicale qui était propre à cette série télé-là. Et en même temps, ben, probablement qu'ils n'avaient pas à payer les droits de certaines musiques de la série. Parce qu'on s'entend que quand on fait un film qui est vu par des millions de personnes, les coûts musicaux reviennent un peu moins importants. Mais pour une série télé québécoise, les budgets sont déjà assez restreints. Donc j'imagine que c'était mieux comme ça. Donc c'est un heureux hasard, mais il y a une belle, comment on pourrait dire, cohésion dans toute la musique qui est inscrite dans cette série-là. Si vous n'êtes pas familier avec la série, je me dis que ça se peut. Je vous conseille de ne pas écouter mon podcast parce que je vais peut-être dire j'essayais de trouver le mot, des divulgâcheux de la série. En fait, on a... La série en tant que telle, c'est quatre personnages qui sont Pierre-Antoine dit PA, Steve Chouinard, Rémi Durocher et Carlos Fréchette. Et ces quatre jeunes hommes-là décident de faire un pacte ensemble. Et le pacte, en fait, c'est de laisser leur blonde et de donner un total accès à leur liberté et laisser la job qu'ils aiment pas et tout ça. En gros, c'est ça, mais la plus grosse implication, c'est que les quatre personnages doivent quitter leur copine le même jour, la même date, la même heure pour justement regagner leur liberté. Et c'est une idée originale de Pierre-Antoine dans la première saison, ce pacte-là, si on veut. Et cette série-là, en fait, pourquoi elle est si bonne? En fait, il y a plusieurs raisons. C'est parce que au Québec, on n'a pas été habitué à autre chose quasiment que des séries sentimentales ou des séries, dans le fond, qui parlent de hockey ou des séries d'époque. Les Invincibles, c'était très actuel. Puis, ben, ça a joué dans le temps où ce que j'avais un âge qui était un peu similaire à ceux des personnages de la série. Donc, c'était facile pour moi de s'identifier à ça. Et dans les séries québécoises, je pense que c'est probablement une des meilleures séries là, qui a été faite. Celle-là est Série Noire, si vous ne l'avez pas vue. D'ailleurs, c'est les mêmes auteurs ou le même réalisateur, du moins, c'est un peu la même gang. Je ne sais pas comment nommer cette gang-là, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, entre autres, entre autres, celui-là qui joue Pierre-Antoine, je me souviens plus de son nom rapidement. C'est un des deux auteurs aussi, je pense que c'est Jean-François Rivard. Non, c'est François Letourneau, l'autre, c'est l'auteur. François Letourneau, après ça, il y a. Non, j'ai la misère avec mes. J'ai la misère avec mes noms aujourd'hui. Il y a Rémi-Pierre Paquin, entre autres, qui est là-dedans. Il y a Pierre-François Legendre aussi. François Letourneau, je l'ai déjà dit. Ensuite de ça, il y a Patrice Robitaille aussi qui fait le rôle de Steve. Qui fait partie un peu d'une clique qui est un peu. Ben, pas une clique, là. Mais disons qu'il y a un regroupement d'acteurs qui a commencé avec le film Horloge biologique. Pas Horloge biologique. Avant ça, on avait Québec-Montréal, ensuite Horloge biologique. Et maintenant, pour les besoins de la cause, Les Invincibles. C'est pas le même réalisateur, mais du moins, il y a comme une espèce de vibe et de regroupement d'acteurs là-dedans qui se suit. On a vu ça aussi dans Série Noire, où ce que des fois les acteurs se recoupent, ou du moins, il y a comme une espèce de génération de créateurs là, qui se retrouvent dans ces séries-là. Et le tout aussi est entrecoupé de bandes dessinées, et ça, c'était vraiment intéressant aussi. Dans le fond, visuellement, ça plaisait beaucoup, je pense, aux gars de ma génération, parce que c'était enfin quelque chose dans lequel on pouvait se retrouver, tu sais. On voit pas les personnages, ou du moins, souvent, tu sais, c'est les personnages ou les émissions, c'est basé sur des valeurs familiales ou des gangs ou des relations de couple, si on veut. Puis, dans cette série-là, c'est un groupe de gars, puis en plus, ce groupe de gars-là, ils jouent pas au hockey ensemble, tu sais, c'est pas une équipe sportive ou rien, c'est juste des amis en quelque part, puis c'est ce qui est intéressant en fait de la série. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que pour commencer, on va dédier une chanson à chacun des personnages de l'émission. Puis je veux commencer par Carlos Fréchette. Carlos Fréchette, qui est un ouvrier dans un abattoir de poulets, qui est un gars qui a un QI très au-dessus de la moyenne. Donc on se demande un peu qu'est-ce qu'il fait. Comment ça se fait qu'il est comme ça? Et en fait, on comprend au fil de la série que c'est parce qu'il a une blonde qui est complètement tyrannique, qui s'appelle Dart Evelyn, ou tout simplement Evelyn. D'ailleurs, l'auteur n'a pas été chercher très loin. Il me semble que c'est pas dans The Master of the Universe, c'est pas dans He-Man que la méchante s'appelait Evelyn. Mais en tout cas, Dart Evelyn ou Lynn, ou Lynn la Poffine, comme elle se fait surnommer depuis qu'elle est petite. C'est vraiment une relation dans laquelle Carlos, il doit être amoureux parce qu'il passe tellement de temps avec elle. Mais tu sais, lui, c'est le seul des quatre personnages qui ne fait pas le pacte, qui fait semblant qu'il l'a laissé. Même son beau-père Son beau-père interpellé par Donald Pilon, qui d'ailleurs l'appelle Carlos au lieu de Carlos, lui suggère de crisser son camp plus vite, de pas marier sa fille, parce que lui, il est complètement soumis à sa mère, à elle. En tout cas, c'est complètement fou. Et la chanson que je vais dédier à Carlos Fréchette, ça va être Poison d'Alice Cooper. Vous savez ma passion d'Alice Cooper. Aujourd'hui, c'est un prétexte pour faire jouer des chansons que j'aime. Et ben Alice Cooper, ben je l'aime bien, bien gros. La chanson, c'est Poison, qui parle justement d'une femme empoisonneuse comme Dirty Evelyn. Pas les gars, si vous avez déjà été dans une relation empoisonneuse, avec une empoisonneuse. Moi, je me souviens d'avoir déjà connu une fille quand j'étais au cégep qui était pas. J'ai pas sorti avec en tant que telle. C'est-à-dire, ça n'a jamais été ma blonde, là. Mais elle avait beaucoup de caractéristiques avec Dark Evelyn. Pas parce qu'elle était possessive, mais bien parce qu'elle réussissait à nous faire. À nous faire un peu ce qu'elle voulait. Puis je me souviens qu'elle m'a déjà un peu mis dans marde parce que elle a réussi à me faire en sorte que j'aille pas une soirée dans laquelle que non seulement j'étais invité, mais j'organisais. Puis en fait, j'ai passé la soirée avec elle au lieu, puis finalement, ça n'a pas été bon pour moi parce que le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais abandonné bien du monde qui comptait sur moi. T'sais, j'étais supposé être, genre mettre la musique dans un party à une époque où que on n'avait pas de lecteur MP3, fait que c'était un peu plus tough. Moi, j'avais une belle collection, fait qu'à ce moment-là, je faisais tourner des disques des fois. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, non, mais rien à voir avec Dart Evelyn qui est interprétée vraiment avec brio par une actrice, comment elle s'appelle déjà? Catherine Trudeau, ouais, c'est ça. Il y a un extrait d'ailleurs qu'on voit où ce que dans son enfance, elle fait quelque chose, puis il y a un adulte qui dit, t'es pas fine, Lynn. Fait que le nom de Lynn la pas fine, ça fait très longtemps que Lynn n'est pas fine. Puis en plus, dans les saisons suivantes, elle fait elle-même un pacte avec les blondes des gars et elle devient un personnage très, 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 très important de la série jusqu'à la toute fin où ce qu'elle est encore plus importante en quelque part. Mais ça, on y reviendra. Vous avez compris aujourd'hui que Les Invincibles, j'aime bien ça d'en parler, mais que c'est aussi un prétexte pour faire jouer des chansons que j'ai le goût de jouer. Et en fait, j'ai donné trois suggestions aujourd'hui et Les Invincibles sont revenus de façon très majoritaire, ce qui me fait dire que c'est un sujet qui va vous plaire et que vous êtes content d'entendre ce podcast-là présentement. Les autres succès que j'avais, c'était les meilleures chansons des pires album des groupes et un autre c'était l'époque sans masque de Kiss et la raison pour ça parce que les trois sujets autant les Invincibles que les deux autres sujets ben ça me permettait de faire jouer du Kiss parce que le groupe Kiss est très très important dans la série des Invincibles pour notre deuxième personnage dont on va parler aujourd'hui, qui est le personnage de Rémi. Rémi qui est un guitariste, chanteur et parolier qui travaille dans un entrepôt de disques au départ et en fait, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Skydome, si ma mémoire est bonne. Et c'est un fan de Kiss. Il y a beaucoup de références à Kiss, de posters, de disques et tout ça. Jusqu'au temps qu'on apprenne que son père serait Gene Simmons. Et là, ben, il y a une fixation comme de quoi il l'apprend. Puis là, ça devient une sous-intrigue, en fait, ça, dans plusieurs épisodes. C'est bien drôle. Jusqu'au moment où ce qu'on découvre que Gene Simmons, c'est pas vraiment le Gene Simmons qu'on peut penser. En fait, on n'a jamais entendu Simmons, je crois. On a toujours entendu Gene. Puis en fait, c'était pas Gene pantoute. En tout cas, c'était un certain dénommé Jean-Marc Perrault qui était interprété avec brio par Pierre Curzi, qui ressemblait quand même à Gene, qui est un personnage lui qui est décédé dans la série aussi, puis qui a laissé un très gros héritage à Rémi, qui l'a flambé en très très peu de temps. Mais bref, toute l'histoire qu'on apprend progressivement que son père serait Gene, et quand on apprend dans le fond que Gene, c'est pas le même Gene, ben, tu sais, ils s'habillent pareil, ils ont vraiment bien recréé leur look. Puis c'est plate parce que dans la série, il n'y a clairement pas eu la chance d'avoir tous les droits de Kiss. Entre autres, parce qu'il y a une scène dans laquelle, puis pourquoi ça me fait dire ça, c'est qu'il y a une scène dans laquelle Rémi se peint en Kiss, mais c'est le visage, là, mais il est comme vraiment pas assez peint, puis là, ben, c'est comme s'il n'avait pas eu le temps de l'enlever complètement, D'après moi, c'est vraiment parce que il n'y avait pas les droits d'utiliser l'imagerie de Kiss dans la série. Probablement qu'il y avait. Tu sais, Gene Simmons, c'est un peu une marde commerciale. malgré tout ce que j'ai de bon à dire sur Kiss, Gene Simmons, vous savez, premièrement, il n'y a pas un produit sur la planète qui n'existe pas, qui n'a pas un logo de Kiss dessus. On en a parlé justement avec les gars de la cassette la semaine passée. D'ailleurs, parlant des gars de la cassette, vous aurez écouté mon épisode de sur pas mon épisode mais l'épisode avec moi et eux autres qui parlent de Brand 23 000. C'est vraiment un bon épisode, je trouve. Puis là, ils vont en sortir deux avec Queen, là, fait que vous aurez écouté ça. On va écouter du Queen d'ailleurs tantôt. Mais où c'est que j'en étais, moi? J'ai passé du coq à l'âne un peu. Non, ah, oui, c'est ça. Gene Simmons qui a probablement pas payé, qui a pas accédé aux droits. C'est pour ça aussi qu'il y a une chanson de Kiss. Il y en a une, je me rappelle pas laquelle, mais je sais qu'elle joue de Kiss, mais c'est pas le gros succès de Kiss, mettons. Puis je sais qu'il y en a une qui joue, qui a été interprétée par la même chanteuse de tout à l'heure, qui a fait la trame originale, qui était très bonne. C'est pas une des plus connues de Kiss, mais c'est une des chansons que j'aime beaucoup. Puis aujourd'hui, on va en faire écouter deux back-à-back des chansons de Kiss. On va aller écouter, en fait, la chanson Strutter. Qui est la première chanson du tout premier disque de Kiss. D'ailleurs, j'ai été enlever le disque qui était depuis longtemps dans une petite vitrine avec une avec une petite figurine de Paul Stanley et deux, trois affaires de Kiss que j'ai là. Fait que j'ai été l'enlever parce que la pochette est super belle. J'ai dit que j'allais faire jouer du Kiss back-à-back. Et en fait, la deuxième chanson que je vais vous faire jouer, c'est en fait, c'est Rémi, qui est un de mes auditeurs, Rémi Rebelle, qui m'a fait remarquer qu'il y a une très belle chanson de Kiss de l'ère où ils étaient sans maquillage qui s'appelle Every Time I Look at You. Non seulement cette toune-là est vraiment bonne, mais elle fait partie de mon album. En fait, de mes deux albums préférés, en fait, de la période Unmask, donc la période où ce que Kiss n'avait plus son maquillage, parce que oui, ils ont enlevé leur maquillage dans les années 80 et 90 pour le reprendre aux alentours de 97, 98, 2000. Mais bon, dans cette période-là, ils ont fait un album qui s'appelle Revenge, qui est un album qui est hard rock, qui est vraiment très bon. Et ils ont fait aussi un album MTV Unplugged, donc avec des guitares acoustiques seulement. Et cette chanson-là de Kiss Every Time I Look at You est encore meilleure en version live que sur la version du vidéoclip ou la version originale de l'album Revenge. Donc, c'est probablement un des albums que j'ai le plus écouté de ma vie, le Kiss Unplugged. En passant, c'est un album que j'adore et ça me fait plaisir de dédier cette chanson-là à Rémi Rebelle. En plus, c'est hot parce que Rémi s'appelle comme le Rémi des Invincibles. Drôle de hasard. You're waiting up by the light of day. There's a lot I wanna tell you, but I don't know where to start. And I don't know what to do if you walked away. Ooh, baby, I tried to make it. I just got lost along the way. Every time I look at you, no matter what I'm going through, it's easy to see. And every time I hold you, the things I never told you seem to come easily. 'Cause you're everything to me. You mean to me. Oh yeah.
time I hold you, the things I never told you seem to come easily. Cause you're everything to me. You're everything to me. You're everything to me.
Quelle belle chanson. C'est tellement long. D'ailleurs, le disque que j'ai, c'est une version spéciale, puis elle est comme en jaune marbre. Puis je sais pas si vous avez déjà vu de vidéos sur YouTube où ce que quelqu'un fait met une tortilla sur une table de tournante, puis il joue une chanson mexicaine, genre. C'est super cliché. On dirait vraiment qu'il y a une crêpe en ce moment sur mon tourne-disque. Ou une tortillasse. Mais bon, hey, on va poursuivre avec notre thématique des Invincibles et des personnages des Invincibles, surtout avec un personnage qui est vraiment, vraiment cool, qui est le personnage de Steve. Un de mes personnages préférés de la série, puis il y a plein de raisons pourquoi. Ben, premièrement, c'est un... Bon, je vous dis, je spoil, là. C'est un personnage qui est gay, mais c'est tellement un beau traitement de l'homosexualité, je trouve, dans cette série-là. Parce que, vous savez, à la télé québécoise, on a déjà déprogrammé des émissions parce qu'on a vu deux hommes se tenir par la main. On parle des années... fin années 70, fait qu'on parle pas il y a 100 ans. Après ça, il a commencé à avoir des gays à la télé, mais c'était des grandes folles. On a juste à penser au personnage, comment il s'appelait, de Christian dans chez Denise, qui était complètement fofolle, puis qui parlait comme ça. Puis tous les gays, en fait, étaient hyper efféminés à la télé. Et le personnage de Steve, qui est... en fait, la série parle qu'il est bisexuel, mais avant tout, il a l'air vraiment... je pense qu'il est davantage homosexuel. Ou du moins, chose qui est vraiment importante, c'est que tous ses amis s'en crissent. C'est vraiment le fun, parce que c'est comme si c'était pas un big deal. Et même lui, il le découvre, mais ben, il l'accepte pas au début. C'est un peu caricatural, parce qu'il s'en va rencontrer Robert Lepage, qui a une... comme une espèce de cours de comment pu être gay, où ce qu'il faut qu'il se crosse pendant 10 jours. Le premier jour, c'est des photos le premier jour, c'est des photos de gars, puis les photos, genre, qui sont hyper schématisées, changent un peu à mi-androgyne 5-6, puis après ça, ben, ça devient une photo de femme. C'est vraiment, vraiment colon. Dire que ça existe encore des écoles comme ça qui ont pour but de te faire changer d'orientation sexuelle. C'est drôle, j'ai écouté un vieux reportage de Caméra 88 ou 87 là, que j'ai trouvé sur YouTube, où justement c'était des gays qui savaient qu'ils étaient gays, mais qui ne voulaient plus le devenir. En tout cas, c'était complètement tordant comment que... Je suis vraiment content d'être arrivé dans une société où ce que l'orientation sexuelle, tout le monde s'en fout, là. Parce que, écoute, j'ai beaucoup d'amis homosexuels, j'en ai eu côtoyé quand même plusieurs dans ma vie, puis c'est vraiment pas quelque chose qui me dérangeait. Puis je suis content, en fait, que c'est probablement pas la première fois, puis je suis pas un grand érudit de la télé québécoise non plus. Mais je peux vous dire qu'il y a déjà presque une dizaine d'années, c'était quand même... C'est pas que c'était audacieux, c'est que c'est une des premières fois où ce que un personnage, on pourrait dire, avec des goûts homosexuels était traité de façon à ce que c'était pas tabou, pas caché, puis qu'il expérimentait, puis que des fois il aimait ça, puis que ses amis s'en moquaient pas. C'est surtout ça qui était le fun à voir. Il répondait pas aux stéréotypes. Puis en plus, Steve, c'est un gars qui est macho, dans le sens où il dégage une belle masculinité. Et parlant de bisexualité et de personnes qui dégage de mojo, on va aller... Je savais pourquoi. On va aller écouter une chanson de Queen et pour faire hommage à Freddie Mercury qui dans une entrevue que j'ai entendue dernièrement, quand on lui demande quels sont ses loisirs, il a répondu « Le sexe ». Puis on sait très bien que Probablement un très grand fanatique de la découverte sexuelle, ce Freddie Mercury, un peu comme le personnage de Steve qui se considère un peu comme le capitaine Kirk, selon ses propres dires, au niveau de sa sexualité, dans le sens qu'il veut découvrir de nouveaux horizons continuellement et qui se voit comme un grand explorateur. Donc, on va y aller avec la chanson Get Down, Make Love, The Queen. D'ailleurs, mes amis de la cassette vont faire un podcast là, sur Queen en deux parties. J'ai bien hâte d'écouter ça, la discographie complète de Queen. En fait, probablement qu'ils l'ont déjà sorti, vu qu'on enregistre dans le temps. Ça. Ça. En plus, il y avait des petits sons un peu d'espace là, qui est un peu rappel au fait que Steve disait qu'il était le capitaine Kirk de la découverte sexuelle. Bon, allez, il nous reste un personnage à couvrir et non le moindre, le personnage de PA. C'est celui-là que j'ai eu le plus de difficultés à dédier une chanson, si on veut, parce que c'est un personnage qui est un peu complexe. C'est un personnage très central dans la série. C'est lui qui décide lors de la saison 1 de faire le pacte des Invincibles. Et c'est un personnage qui est un peu un Tanguy, qui vit encore chez son père, qui est psychologue et qui est hyper égocentrique. C'est maladif à quel point il pense qu'à lui. C'est complètement fou. Puis une de mes scènes préférées où ce que tu dis, mon Dieu Seigneur, c'est qu'il se fait il se fait une petite blonde, là. Elle s'appelle, je pense, Valérie. Elle est extrêmement jolie, fine, super gentille, tout le monde l'aime. Elle est populaire dans les parties. Et, ben, en fait, PA vient qu'à la laisser parce que elle prend trop d'attention. Puis il juge il se met à juger le temps que lui, il va parler dans une conversation par rapport à elle, ce qu'elle peut parler, par exemple, autour d'une table. Il se rend compte que, en fait, ce personnage-là, ça lui fait prendre compte de sa médiocrité, je pense. Puis il se fait sacrer dehors de chez lui. Il est vraiment tanguy, fait qu'il va se mettre à camper, dans le fond, dans la cour chez eux. Il se met à faire du bénévolat juste pour avoir un chandail, pour bien paraître au vu d'une conquête qu'il veut reconquérir. Mais il a jamais eu le goût d'aller faire du bénévolat. Tu sais, c'est pas une bonne personne. Puis au début, c'était difficile pour moi de chercher. Puis j'ai essayé de trouver l'artiste, du moins, qui était le plus égocentrique, et c'est difficile de faire plus égocentrique que Michael Jackson. D'ailleurs, si vous avez jamais vu le film Moonwalker de Michael Jackson, courez à votre club vidéo le plus proche, vous louez la cassette VHS. C'est complètement fou ce film-là. C'est un film qui dure 1 h 20, dans lequel Michael ne dit que aimez-moi, 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 je suis le plus grand, je suis le plus beau, aimez-moi, je suis le meilleur, j'étais le meilleur, je serai le meilleur. C'est fou comment. Écoute, ça n'a aucun sens. Le film, ben c'est un film, mais c'est une compilation de clips, si on veut. Le film, il commence dans lequel on voit des scènes d'un spectacle de Michael Jackson entrecoupées de fans qui s'évanouissent. Puis on s'entend, c'est pas un documentaire, hein? C'est un film qui est produit par Michael Jackson, donc il voulait ça. Il est complètement fou. Il était à une époque, il était complètement, je sais pas si c'est le bon mot là, mais mégalomane, où ce que tout était trop awesome. Je l'ai déjà vu dans des entrevues acheter des affaires sur un coup de tête qui coûtait un lion à 20 000 piastres. Ça le dérangeait pas, c'est tout pour. Il a marié la fille d'Elvis Presley. C'est pas rien. C'est fou. Il s'est autoproclamé le King of Pop. Puis, quand il a fait son album Bad, il y a une chanson. À l'époque, c'était fréquent. Il y avait une toune de plus sur le CD que sur le vinyle. Fait que la chanson que je vais aller faire jouer, je l'avais pas en vinyle parce que elle est pas sur le vinyle de Bad. Elle était en bonus sur le CD de Bad qui était sorti en 86-87. À l'époque, il faisait ça. Quand tu achetais le CD, souvent, tu avais une chanson de plus. Un peu comme le DVD avait plus de bonus qu'un VHS, puis que le Blu-ray avait plus de bonus. Tu sais, pour influencer les gens envers le nouveau média, tu sais, tu vas à toune de plus. Fait que tu vas acheter le produit le plus cher, en quelque part, ben ça mousse la technologie. Il y en a un qui. Je sais pas si vous saviez cette anecdote-là, petite bulle comme ça. Plume la Traverse a sorti un disque CD en 90 sur lequel la cassette avait une toune de plus, un peu pour faire le contraire de ce qu'on connaissait. Bref, ma blonde Rebecca à Noël, elle m'a acheté un beau vinyle de Michael Jackson, une compilation qui est sortie qui s'appelle Scream, qui est à thématique un peu Halloween si on veut. Et le disque est. C'est vraiment hot parce qu'il illumine dans le noir, donc c'est super cool. J'aimerais ça faire un podcast un jour avec les vinyles spéciales, tu sais, les vinyles de couleur, les shapes, les disques comme ça qui illuminent dans le noir, tout ça, c'est plusieurs disques qui ne sont pas noirs, puis qui sont très intéressants à cause de ça. Mais la chanson que je vais aller faire jouer, ça s'appelle Leave Me Alone, qui est d'ailleurs dans le film de Michael Jackson que je vous dis des années 80, là, qui s'appelle Moonwalker. La chanson, là, a dit, dans le fond, c'est un message aux paparazzis d'arrêter de l'achaler. Mais Christy, Michael Jackson, il a juste fait ça. Puis tout le film, c'est justement pour dire aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Puis il fait une chanson pour que les gens arrêtent de porter de l'intérêt dessus, genre. C'est vraiment whack. Puis sans plus attendre, on va aller écouter Leave Me Alone, qui aurait dû s'appeler Love Me, Love Me, Love Me. Ouais, Discours à deux vitesses, mon Michael. Si tu voulais qu'on arrête de parler de toi, t'avais juste arrêté d'être toi. Oh, bon Dieu Seigneur. D'ailleurs, si jamais vous voulez m'encourager, vous aimez ce que je fais et tout ça, je vous invite beaucoup à aller mettre des 5 étoiles un peu partout, de populer la planète de la bonne nouvelle de ce qu'est le podcast au Québec en général, et le mien, le 3345 en particulier. Vous pouvez même m'encourager avec un petit don de 5$ sur mon Facebook, le 3345. Il y a une petite case acheter, si vous cliquez là-dessus. Vous pouvez me faire un don de 5$ et ensuite casser l'ambiance. Donc, c'est-à-dire, vous choisissez votre thème. Et je parle de vous et de vos chansons et de vos thématiques pour une période d'environ 15 minutes, soit 3 chansons. Vous pouvez choisir les chansons ou soit vous me donnez la thématique. Je m'arrange avec ça. Je suis pas obligé de l'avoir en vinyle nécessairement, mais bon, hey, 5$ pour entendre parler de vous autres pendant 15 minutes, c'est pas cher. Donc, merci si vous le faites. D'ailleurs, je vous invite aussi à m'envoyer des messages. N'importe quel commentaire est le bienvenu. Honnêtement, ça fait ma journée. J'aime vraiment ça vous entendre parce que bon, voyez-vous, le 3345 présentement a environ une moyenne de 100 écoutes environ, donc par épisode. Et par contre, ça compte pas le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent le podcast, donc des anciens épisodes. En réalité, j'ai à peu près 200 nouvelles auditions, 200 téléchargements à chaque semaine. Donc, une centaine que c'est le podcast en cours et une autre centaine que c'est les épisodes passés. La raison pourquoi je vous dis ça... je vous dis, parce que j'en veux plus, tout simplement. Puis si vous partagez, vous parlez de moi un peu, vous me donnez des 5$, des choses comme ça, ben ça me permet de publier un peu, mais bon, voilà. Ce qui me fait très plaisir aussi, c'est quand vous m'écrivez juste un petit message pour me dire que c'est bon ce que je fais ou que vous me faites des suggestions de thématiques. J'aime bien ça aussi. On va finir ce podcast-là avec une chanson, ma foi. Pour revenir aux Invincibles, les Invincibles, ça n'a duré que 3 saisons. 35 épisodes en tout, et je pense que c'est une bonne chose. On n'a pas étiré la sauce. Même à la saison 3, moi, je trouve un peu qu'elle était un peu moins bonne, là, parce que ça tournait beaucoup autour des personnages féminins, donc les blondes des gars, qui étaient maintenant des blondes steady. C'était la toute fin. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le personnage le plus détesté, entre guillemets, de la série, qui est Dart Evelyn, meurt en accouchant. Et je vous ai parlé tantôt qu'il y a une transposition bande dessinée et réalité dans la série Les Invincibles, et ça n'a jamais été aussi bien rendu que ça, à ma connaissance, dans une série télé québécoise. C'est le meilleur... Je pense que c'est la meilleure finale de série que j'ai vue de toute ma vie. Et elle se fait sous la trame originale d'un album de Scorpion qui est Love at the First Love at the First Thing, qui est l'album qui est très connu pour la fameuse chanson Rock You Like a Hurricane. Mais en fait, comme trame originale, ils ont été chercher la chanson I Still Loving You. Puis on mis ça en fond pour un peu accompagner le décès d'Evelyn, qui était mis également, c'était comme son décès à elle, donc il y avait des scènes d'hôpital entrecoupées de scènes où ce que c'était dans le fond, des cases de bande dessinée, puis on voyait l'action qui se passait. Donc, il y avait tout le côté héroïque du héros qui quitte son ennemi, qui la voit tomber au loin, lugubre, tu sais, dans les scènes un peu à la Gotham City, si on veut. Puis, de l'autre côté, ben, t'avais Evelyn, ben, Lynn, le personnage qui se fait enlever son tube de dans la bouche parce qu'elle est morte, tu sais. C'est vraiment débile. Honnêtement, j'ai pleuré. Puis, juste d'y penser, c'est que Colin, ça me donne un petit shake. Si vous avez jamais vu ça, puis si vous avez jamais vu... Ben, premièrement, si vous avez jamais vu Les Invincibles, là, allez écouter ça, c'est super bon. Je ne pense pas que vous puissiez ne pas aimer ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Go, fille, là! Mais si jamais ça vous intéresse pas, au moins, allez voir cette scène-là, qui est la scène finale. Oui, c'est sûr que... Ben, c'est pas vraiment un punch, parce que, bon, c'est la fin de la série. Mais si vous l'avez pas écouté, de toute façon, j'ai dit que je spoilais... Allez le voir, l'extrait. Ça dure 7 minutes, 8 minutes. Il se trouve facilement sur YouTube. La fin des Invincibles. C'est un moment d'anthologie québécoise. C'est aussi simple que ça. Fait qu'on y va avec I Still Loving You, qui est à peu près un des plus beaux slows, une des plus belles rock ballades. Dans le temps, on dansait des slows dans des bars, ça c'était une bonne tune à choisir parce que elle durait 6 minutes 27. Fait que. T'avais le temps de tripoter à la fille. Oh, salut!
Can bring me your love someday.
C'est, tu sais quoi, ça?
Un trou.
C'est, tu sais quoi, ça?
Ben, du plâtre.
Non, Carlos, ça, c'est la conception que t'as de moi. Puis qu'est-ce que je fais, là? Je bouge des trous. Je suis pas ton chum, Carlos, je suis un bouche-trou. Tu m'utilises quand ça fait ton affaire, puis après ça, tu me laisses sécher. Tu me mets dans une situation impossible avec Lynn. Puis en plus, ça fait une semaine que j'ai pas fait de motocross parce que tu m'as pas remis mon GPS. Je suis pogné à prendre le transport en commun.
Alors, voyons, Rich, là.
Ben, voyons, Rich.